Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure des oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et ce soir, Juliette, de quoi on parle ?
Alors ce soir, ces deux saisons, vous avez dû vous en rendre compte, c'est la rentrée, les feuilles commencent à tomber, les gosses, vos mômes, ou les enfants en tout cas plus ou moins grands sont rentrés à l'école, les premiers contrôles ont déjà eu lieu, le bulletin des vacances de la Toussaint va bientôt tomber, et là... je ne sais pas, peut mieux faire, problème de concentration, niveau juste, ensemble insuffisant. Et alors, que font les parents à ce moment-là ? Les parents, s'ils prennent le métro, ils se disent « Hé, on va faire, comme il est indiqué sur la pub, on va aller voir un professeur particulier dans un groupe, une société privée qui dispense ses cours particuliers. » Et donc, c'est ce dont on va parler ce soir. On va parler de la course à l'excellence, stratégie scolaire des familles aisées, le recours aux sociétés privées de cours particuliers, puisqu'on reçoit en plateau Sarah Dulaurier, qui a écrit un mémoire sur le sujet. Mais avant ça, allez, un peu de boum boum tatapoum. Opportunities, c'était les Clash, alors ça c'était en 79, mais aujourd'hui encore, on demande aux jeunes, tels qu'ils soient, de n'importe quel âge d'ailleurs, de réussir scolairement. Il y a une vraie pression qu'on peut voir, qu'on peut entendre, que ce soit de la part des parents, de la part de l'école, de la part des médias, ou même, comme je disais tout à l'heure, de la pub qu'on voit un peu partout dans le métro. Il y avait cette puis c'est marrante avec « Elle a pris le pouvoir sur le français », on voyait une femme révolutionnaire qui d'un coup, grâce à des cours particuliers, était devenue bonne en français. En ce moment, il y a aussi « Quand un élève ne progresse pas, il doit abandonner les méthodes qui ne lui conviennent pas », sachant qu'il doit abandonner et une autre couleur que les méthodes qui ne lui conviennent pas. Et donc, on voit bien que la pression est là pour que les gosses, tels qu'ils soient, réussissent. Mais on voit qu'il y a des stratégies différentes en fonction des milieux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a ce soir Sarah Dulaurier. Bonsoir.
Bonsoir.
Parce que tu as écrit un mémoire dans le cadre d'un master de sociaux qui s'appelle « La course à l'excellence, stratégie scolaire des familles aisées, le recours aux sociétés privées de cours particuliers ». Alors peut-être déjà pour commencer, comment tu as eu l'idée de traiter ce sujet-là ?
Eh bien, écoute, ça fait 3 ans que j'étais professeur particulier pour payer mes cours de théâtre. Et je me suis dit un jour, en lisant un bouquin des Pinsons Charlot, que moi aussi j'avais envie d'écrire, puisque les publics que j'avais, les familles, étaient plus ou moins, alors on en parlera un peu après, des catégories similaires à celles évoquées par les Pinsons Charlot. Donc je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'écrire. Donc je suis allée voir Monique Pinson Charlot et je lui ai demandé comment je pourrais faire pour écrire, puisque je ne me voyais pas écrire toute seule, j'avais besoin d'un encadrement. Et donc là-dessus, Monique Pinson m'a donné le numéro de quelqu'un, qui était Stéphane Beau. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphane Beau, et je lui ai proposé mon projet. Il a bien voulu m'encadrer, c'est là que je me suis retrouvée embarquée dans un Master 2 de sociologie qui n'était pas du tout prévu à la base.
Mais d'une certaine façon, ton terrain, tu l'avais un peu fait, puisque tu as, grosso modo, étudié les familles à qui tu as donné des cours.
Alors non, puisqu'en fait, j'ai décidé de repartir sur le terrain. Donc, je n'ai pas étudié les familles auprès desquelles j'avais travaillé au préalable. Je travaillais auprès de nouvelles familles, en essayant d'établir vraiment un travail scientifique, en établissant un échantillon. Et donc là-dessus, j'ai essayé d'établir justement des catégories de familles qui pouvaient m'intéresser. Donc là, j'ai intégré les agences des sociétés privées du 16e arrondissement, et y compris du 12e arrondissement, pour pouvoir repartir sur un terrain correspondant à des familles appartenant au profil des Pinsons.
Mais là, t'étais undercover, t'étais clandestine comme prof, ou t'étais officiellement sociologue qui enquêtait ?
Alors j'étais undercover. Et c'est ce que j'explique justement dans le mémoire. J'ai préféré faire ça puisque j'accompagnais des élèves au baccalauréat et je voulais absolument pas qu'il y ait une dissociation dans leur esprit entre mon investissement auprès d'eux, qui était réel, à savoir les accompagner dans cette épreuve qui était très importante pour eux, et ne pas être dans la confusion des genres. Donc j'ai été undercover sur toute cette période-là pour ces raisons-là.
Et alors tu donnais quel type de cours particulier en fait ?
Alors, de tout, de l'allemand, du français, de l'anglais, marketing, il me semble également, mais avant tout du français.
Et alors, à ce moment-là, t'as fait un peu une enquête dans les familles aisées. Comment t'as choisi ces familles ou c'est la société qui t'a envoyé là-bas
Alors, c'est ça. Ce sont les sociétés qui choisissent pour les professeurs particuliers les familles et qui les amènent en fait vers les professeurs particuliers en fonction du pédigré, si on peut parler comme ça, des professeurs particuliers. Donc, plus on a un diplôme élevé, plus on est vers des familles qui, elles, aspirent à un diplôme fort pour leurs enfants.
Et alors, justement, là, ces familles qui font appel aux professeurs particuliers, souvent, j'imagine que c'est peut-être des gens qui ont des diplômes, qui ont fait des études. Pourquoi ils choisissent un tiers pour soutenir leurs enfants ?
Tout simplement parce qu'elles n'ont pas le temps. Parce que la plupart du temps, c'est des familles, qui soient monoparentales ou non, qui ont des emplois du temps de fou, qui fait qu'ils n'ont pas le temps le soir d'accompagner leurs enfants dans les devoirs, puisqu'ils ont passé toute la journée dans des postes à responsabilité, et que le soir, ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour accompagner les enfants dans les devoirs, et en plus faire à manger et préparer les bains si les enfants sont en plus bas âge. Donc le professeur particulier est une aide à domicile à part entière pour structurer leur journée.
Mais moi, je voudrais revenir sur la méthode. Donc, tu étais undercover, du coup, tu n'as pas fait d'entretien avec tes enquêtés ?
Avec certains d'entre eux, si, donc, en explicitant que je faisais justement dans le cadre du master sociologie des enquêtes sur les familles, par rapport à la scolarité. Donc, certaines d'entre elles ont bien voulu faire des entretiens par rapport à ce séminaire que je suivais à l'EHESS.
Mais du coup, c'était avec les parents et les enfants ?
Tout à fait, avec les parents et les enfants.
Donc là, tu as tombé le masque, en fait. Avec certaines familles, tu as tombé le masque ou pas vraiment ?
Tombé le masque.
Tu as révélé qui tu étais vraiment, à savoir une sociologue et pas seulement une prof de cours particulier.
Alors, d'une certaine façon, oui, mais mon investissement, il était toujours le même, si tu veux, auprès des enfants. Donc, il n'y avait pas de... Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est une façon de dévoiler le masque. Il n'y avait pas de dévoilement, puisqu'il y avait juste deux séquences qui ne correspondaient pas aux mêmes objectifs. Donc, le rôle qui était le mien auprès des enfants n'a jamais changé, si tu veux.
Oui, tu veux dire, c'était pas... En fait, je ne suis pas une prof de cours particulier, mais une sociologue.
Exactement.
Je suis en plus
c'est ça.
Une sociologue.
Exactement. Okay.
Puis j'imagine que tu t'étais présentée comme une étudiante au départ.
Tout à fait, ce qui était mon cas. Et, Et surtout, moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est que au-delà de l'enquête, c'est le rôle de pédagogue, en fait, qui était le mien auprès de ces enfants, qui me tient toujours énormément à cœur dans tous les travaux que je fais, qui est celui de la transmission. Donc après, analyser, c'était autre chose. Donc il y a vraiment une dissociation entre mon rôle, ce que j'apportais aux enfants, et ce que j'ai voulu expliciter du système dans lequel ça s'insérait.
Et là, tu as décidé de parler en particulier des familles aisées. Pourquoi tu as fait ce choix-là, en fait ? Parce que finalement, des profs et des cours particuliers, il y en a dans les MJC, il y a plein d'assos qui font du soutien scolaire.
La question, elle était surtout de soulever justement le diptyque qui se joue entre les familles et entre les sociétés de cours particuliers. De voir comment la peur du déclassement, qui est au cœur du sujet que j'ai rédigé, elle est nourrie par ces sociétés, mais qu'elle est aussi réelle. Donc comment ces familles font appel aux sociétés ? Parce qu'elles ont peur justement du déclassement. Et c'est ça qui est très intéressant au cœur du sujet, c'est de voir comment ces deux entités fonctionnent véritablement en système. La peur d'un côté et de l'autre côté une réponse de marché sur cette peur-là.
Oui, il y a vraiment une peur, on sent ça, il y a aussi l'envie de maintenir cette position sociale, qui est une position sociale dominante, ou en tout cas c'est des gens dans tes enquêtés qui ont des postes à responsabilité, des cadres supérieurs. Et d'où vient cette peur ? Comment, quand ils voient les résultats scolaires de leurs jeunes, ils réagissent ?
C'est là où est le paradoxe, c'est que les enfants et adolescents que je suivais n'avaient absolument pas de problème scolaire. C'est-à-dire que ce sont des têtes de classe. Ils ont 15, 16, 17 de moyenne. Donc la peur, elle est où ? La peur, elle est aussi au sein même des familles. Quid de familles monoparentales, beaucoup, avec des femmes qui étaient complètement remarquables, qui devaient assurer et l'éducation de leurs enfants et leur poste à responsabilité et le suivi scolaire. Donc déjà, il y avait ça. Et puis l'autre élément, c'est des éléments objectifs, c'est un chômage des jeunes qui est hyper fort, et pour toutes les classes sociales confondues.
Et alors là, dans ce recours aux cours particuliers, il y a une certaine façon, de voir l'éducation d'un point de vue individuel et aussi de privatisation, c'est hyper capitaliste comme fonctionnement. Est-ce qu'ils voient ça de cette manière-là, dans le choix stratégique ou pas du tout
Non, il y a pas, faut pas placer les acteurs comme des stratèges ultra rationnels qui avancent comme sur un échiquier. Non, ils sont avant tout là pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes, à leurs aspirations. Ils sont parfaitement légitimes là-dedans. Après, la position du mémoire, c'est de comprendre en surplomb qu'est-ce qui se joue à une plus haute échelle, qui serait celle d'une analyse sociologique. Avec une démarche ethnographique. Donc oui, effectivement, si on commence à raisonner en termes d'acteurs stratèges, oui, forcément, il y a un intérêt, si on veut être lamnisien, il y a un intérêt là-dedans, bien entendu. Mais avant tout, moi, j'ai surtout vu et entendu la peur de ces familles-là.
Et alors la peur, c'est la peur qu'ils expriment à leurs enfants. Leurs enfants sont aussi déstressés, ils ont besoin d'une béquille. Ou le prof, il fait quoi exactement ?
Le prof, il fait quoi ? Bah, le prof, il est avant tout un pédagogue dans cette posture-là. Il est là pour rassurer. Il est là pour être pour une présence aussi. On rentre le soir vers 17h des cours. Les parents ne sont pas là, donc le professeur particulier, c'est un babysitter intelligent, quoi. On va dire ça comme ça. Et puis aussi, c'est une béquille, pour reprendre tes termes, je ne sais pas si c'est juste. Mais en tout cas, c'est une présence structurante pour l'enfant dans l'organisation de son travail.
Et c'est toujours le même professeur ?
Oui.
Toujours, il y a un suivi qui est pendant toute l'année, personnalisé, on va dire.
Tout à fait.
Et alors, ces jeunes, souvent, dans ton mémoire, on voit qu'il y a quand même aussi... les parents ont envie de transmettre des connaissances artistiques, des sports particuliers. Qu'est-ce que tu en penses de tous les loisirs qui vont aussi autour de ces clients
Alors effectivement, ce que j'ai montré dans le mémoire, c'est que l'emploi du temps de ces enfants sont particulièrement chargés. Il y a très très peu de temps qui est laissé à la vacuité. D'ailleurs, ce que j'essaye de pointer en conclusion, c'est une question avant tout, mais qu'est-ce que ça donne des enfants qui ont peu de temps pour rêver, pour imaginer ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des parfaits petits exécutants ? C'est la question que je pose à la fin. Mais en tout cas, dans cet emploi du temps très très chargé, il y a une scansion du temps qui est organisée autour de la proposition et non du désir des enfants. Ça, c'est un point très très important. Ce qui donne des trajectoires pour certains que j'ai pu suivre un petit peu plus longtemps que sur mon travail d'enquête, donc qui aura duré 8 mois au total. Ce qui donne pour certains d'entre eux que j'ai suivi plus longtemps, une forme de malaise. Clairement, des enfants qui s'appartiennent assez peu, en fait. Alors, est-ce qu'un enfant s'appartient, c'est toujours la question. Mais en tout cas, qui doivent cravacher vraiment, qui sont prêts, tenus prêts à une forme de guerre scolaire. C'est ce que, justement, j'ai voulu montrer en utilisant le titre « La course à l'excellence ». C'est que les ambitions des parents, elles sont assez élevées, pour ne pas dire trop élevées pour certains, notamment Madame Huy, que j'ai appelée comme ça, parce que tous les noms sont anonymisés, puisque ici, le devoir n'est pas celui de dénonciation, mais d'énonciation, pour mieux comprendre les choses. Et Madame Huy, pendant un entretien, me dit « Écoutez, Sarah, aujourd'hui, la vie, c'est 1 ou 0. J'attends la destruction du monde pour tout racheter derrière. » Donc, elle, c'était une dame qui était une ancienne tradeuse. Et donc, dans sa guerre à elle, il fallait que ses enfants soient prêts. Et donc, il fallait leur donner des cours de français, de chinois. Il fallait qu'ils sachent un maximum de choses.
Il y a aussi, dans les gens que tu as rencontrés, je crois me souvenir d'une jeune fille qui faisait l'Opéra de Paris, qui avait l'air de, entre les cours de danse, qui je sais pas combien d'heures elle faisait, plus les soutiens quand elle était blessée, et on lui rajoutait en plus des cours d'allemand, il y avait quand même, on se disait, c'est presque de la torture.
Alors là, on est dans le cliché de la danseuse qui souffre de son corps et en plus qui va souffrir à l'école. Non, là, ça, c'est des poncifs. Après, effectivement, cette jeune fille avait un emploi du temps très, 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 très chargé.
On a envie, quelque part...
Enfin, moi qui ai lu ton mémoire aussi, mais on a envie que ces enfants, quelque part, ils souffrent aussi un peu par ailleurs, parce que c'est vrai qu'ils ont plutôt la belle vie. Non, pas que j'ai envie que des enfants souffrent. Mais ce que je veux dire, c'est que tu disais tout à l'heure, toi, finalement, à l'école, ils sont premiers. Donc les cours particuliers, c'est pour rassurer les parents plus qu'autre chose, puisque les enfants, eux, ils n'en ont pas spécialement besoin. Qu'ils ont des agendas dorés, même s'ils sont très chargés, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et tu dis, donc, c'est des enfants qui n'ont pas de problème. Alors, quelque part, on se dit, bon, on aurait envie qu'ils en aient quand même quelques-uns, comme tout le monde, comme les autres. Ça rétablirait une certaine égalité. Moi, je trouve que ce serait assez juste. Et c'est vrai que quand à la lecture du mémoire, moi, c'est un peu aussi ça qui m'est venu, tu vois, sans avoir encore une fois envie de faire souffrir des enfants, mais une plus juste répartition de la souffrance au sein de la société, ce serait pas un mal.
Alors, je sais pas si on peut articuler les choses de cette façon-là, mais c'est des enfants qui ont une charge, une pression sur les épaules qui est tellement énorme que pour moi, on peut quand même parler de souffrance. Je parle notamment du cas d'une petite élève qui a des difficultés, pas d'ordre scolaire, mais plutôt des difficultés d'ordre alimentaire à cause de cette pression énorme. Donc dire que des enfants de classe inférieure souffrent plus ou moins et qu'eux devraient souffrir plus ou moins, je ne sais pas. Je pense que c'est pas, il y a quelque chose de pas équilibré dans ce propos-là. Après, ils ont leurs propres difficultés. C'est vraiment ça, en tout cas, qu'on peut entreapercevoir quand on est à leur contact.
Et est-ce que tu penses que, justement, tout à l'heure, tu parlais de Madame Huy, qui veut racheter le monde, qui a déjà commencé, d'ailleurs, à racheter, je crois, des propriétés ou des biens immobiliers un peu partout, parce qu'au cas où, on ne sait jamais. Est-ce que ces gens-là, finalement, imposent cette pression, une pression telle à leurs enfants, parce qu'eux-mêmes ont subi ça ? Et enfin, elle vient d'où ? Parce que leur peur est complètement injustifiée. Leur peur de ce qui va leur arriver, c'est des gens qui ont tout. Même s'ils perdent un peu, ils ne vont pas se retrouver demain vraiment en gros problème. Donc, elle vient d'où, cette peur ? Et pourquoi ils imposent ça à leurs enfants ?
Alors, on va reprendre un point méthodologique, on est en sciences sociales, sur la notion d'aisance, parce que j'ai parlé des catégories des familles aisées. Donc, dans cette notion d'aisance, c'est un peu un fourre-tout dans lequel j'ai pu ranger, si on parlait, comme l'INSEE, des catégories socio-professionnelles supérieures, qui est le noyau dur des familles que j'ai pu étudier, chez qui j'ai pu travailler. Et on a une frange un peu au-dessus, qu'on pourrait appeler bourgeoise, pour parler comme Pierre Bourdieu, qui, elle, est décrite par la situation que tu viens de mentionner.
Mais ce n'est pas la majorité.
Mais ce n'est pas la majorité des gens avec qui, lesquels j'ai travaillé. Et l'exemple de Madame Huy, qui est l'exemple le plus, on va dire, glamour du mémoire, c'est qu'effectivement, là, on est dans l'exemple archétypal quasi tarte à la crème d'une femme qui est une ancienne traideuse, une femme seule d'ailleurs, qui a ses enfants seuls, qui est une ancienne traideuse, qui a fait Sciences Po Paris, qui a dirigé un fonds de spéculation pendant de nombreuses années, qui là a reconverti toutes ses activités dans l'immobilier.
Moi, je voudrais revenir sur... Ah non, sauf si Blanc, tu avais encore des questions ?
Je t'en prie, Céline.
Sur la peur du déclassement, enfin, comment elle se transmet en fait des parents aux enfants ? Parce qu'il doit y avoir, il y a une forme d'intériorisation de la part des enfants, de cette nécessaire... Parce que les enfants, ils pourraient aussi envoyer bouler. Enfin, ils ressentent aussi cette nécessité quand même d'un soutien du pédagogue, des cours particuliers. Comment ça se passe en fait, cette articulation entre la peur du déclassement des parents qui n'est pas forcément conscientisée comme irrationnelle, mais qui est présente, et puis l'intériorisation ou la façon dont les enfants se la réapproprient. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir dans tes entretiens ?
Alors la réponse, clairement non. Après, au quotidien, cette intériorisation, elle se voit surtout par la somatisation. C'est-à-dire que ces enfants qui, à 12-13 ans, sont hyper stressés, qui réagissent régulièrement à des bulletins de notes pas aussi bons qu'attendus, avec des crises de larmes, des façons de surréagir à l'événement scolaire d'une façon démesurée. Donc cette intériorisation, elle est très très palpable dans la vie affective de ces enfants. Donc la peur, oui, il la porte, clairement.
Et dans toute la pression qu'il y a sur ces enfants, il y a aussi le fait qu'ils fassent un métier qui soit un métier noble, un métier qui est prédéfini par ses parents, mais on ne fait pas n'importe quoi, on fait des études pour réussir, on ne va pas faire un CAP de plomberie par exemple.
Non, alors justement c'est ce qui est ressorti dans les quelques entretiens que j'ai pu faire. Les enfants se projettent dans des métiers nobles socialement, quid de l'avocat, du médecin. Il y a notamment l'exemple d'une petite élève qui, à cette question, répond « Moi, je souhaiterais devenir anesthésiste, mais comme on m'a dit que c'était un métier où on gagnait beaucoup d'argent, je voudrais seulement être médecin. » Et quand je lui ai demandé « Mais pourquoi tu ne veux pas gagner beaucoup d'argent ?» fait « Parce que c'est mal. » Donc avec une forme d'éthique du désintéressement qui se dégageait déjà à l'âge de 12 ans, de se dire bah, « Tiens, effectivement, je veux faire du bien aux autres, métier en plus socialement bien reconnu, mais en même temps, je ne veux pas montrer que je puis être intéressée dans tout ça. » Donc de voir justement comment dans le schéma cognitif de certains de ces enfants, il y a une intégration très 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 forte de l'héritage socio-culturel qui vient de leur famille.
Est-ce que ces familles avaient confiance dans le système scolaire français ? Parce que souvent on dit « Ah, plus rien ne va à l'école, le niveau baisse, c'est la catastrophe ». Est-ce que ces familles, déjà, un, choisissent peut-être des établissements qui sont plus prestigieux, que ce soit en prenant des options bizarroïdes ou en les mettant dans le privé ? Ou est-ce que les gens avaient plutôt confiance dans le système ?
Alors effectivement, la majeure partie des familles ont montré une forme de défiance avérée vis-à-vis du système scolaire français. La majeure partie avait choisi de placer leurs enfants dans le privé, non confessionnel. La question de la défiance par rapport au système scolaire, elle est paradoxale, puisqu'ils souhaiteraient quand même voir leurs enfants intégrer les Louis le Grand, les Henri IV. C'était notamment le cas des familles du 11e et certaines du 16e. Mais pour les intégrer, il faut consentir à la dépense. Et la dépense, elle se fait sur le professeur particulier et sur le cours particulier, notamment.
Never end.
Et ouais, School Days de Joan Jett, parce que ce soir, avec les oreilles loin du front, sur FPP, on est avec Sarah Dulaurier, qui a écrit un mémoire sur la course à l'excellence, la stratégie scolaire des familles aisées, le recours aux sociétés privées de cours particuliers. Donc on parle éducation et cours particuliers. Alors, tout à l'heure, tu nous racontais un peu tes relations avec les élèves dont, auxquels tu as donné des cours et sur lesquels tu as écrit un mémoire. Mais peut-être qu'on va peut-être s'intéresser aussi au fonctionnement de ces sociétés, parce qu'il y a les sociétés de cours particuliers, il y a aussi les profs qui donnent des cours d'un point de vue individuel. Alors toi, tu as travaillé avec des sociétés qui gèrent un peu ce marché, parce que c'est devenu un marché vraiment, hein, les cours particuliers. Alors tout à l'heure dans l'intro, je parlais des pubs qu'on voyait dans le métro. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la communication, parce que c'est quand même assez intéressant, je trouve.
Effectivement, la communication de ces sociétés qu'on voit très visiblement sur toutes les lignes parisiennes et sur toutes les 4 par 3 dans toutes les villes de France sont des supports de communication à même de fournir leur vision de la scolarité, à même de distiller leur vision du cours particulier. Alors, tu en as décrites certaines tout à l'heure. Celle que j'ai voulu, moi, mettre en exergue, c'était celle où on voit des génies, notamment Victor Hugo.
Einstein, je crois aussi.
Einstein, où on les voit se transformer, un enfant se transformer en génie. Donc la promesse, sur l'analyse du signe, effectivement, la promesse, elle est celle de voir son enfant se transformer en génie. Ça, c'est la promesse de vente. Sur le discours même, le message est très bien ciblé. Les problèmes de pression, problèmes de compréhension, a priori, ça diffère pas tellement du travail d'enquête que moi j'ai pu mener, puisque c'est quelque chose qui est réel. Après, c'est comment ils l'apprivoisent et comment ils s'en servent. Une question propre aussi au langage. C'est avant tout ça que leur support de communication met en avant. Comment ils mettent en avant la réussite en lien avec la notion de bonheur. Comment ils mettent en lien ces deux idées-là? Il suffit de regarder leur campagne. La question ensuite pour eux est de voir comment ils peuvent attirer un maximum de personnes sur cette promesse de vente. Et ce que j'ai voulu moi montrer dans cette partie du mémoire, c'était les rouages qu'il y a derrière cette promesse de vente, et notamment par les contrats qu'ils proposent aux professeurs particuliers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés de placement ne sont pas les employeurs des professeurs particuliers. Ce sont les familles qui sont les employeurs. Donc les sociétés de placement sont sur le marché ce qu'on appelle des structures intermédiaires, comme un agent, des agents de prof. Et de ce fait, ils bénéficient d'un dispositif fiscal qui a été mis en place par le plan Borloo depuis 2005, qui avait trait aux questions de services d'aide à la personne, qui permet en fait à ces sociétés de proposer des heures de cours qui sont ensuite défiscalisées pour les familles.
Donc c'est aussi pour ça que ça touche souvent des familles aisées.
Tout à fait. Celles qui ont en tout cas, dans leur barème fiscal, intérêt à pouvoir défiscaliser ces heures-là. Donc ça ne concerne effectivement pas tout le monde.
Et alors, quand tu parlais tout à l'heure de la communication de ces sociétés, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein, il y a un leader, mais après, il y a plein de sociétés différentes. C'est quoi exactement d'un point de vue... Par exemple, sur les campagnes, qu'est-ce que tu as pu voir, à part le fait que ce soit des génies, on va transformer les enfants en génies. Y a-t-il du dénigrement de l'éducation nationale? Y a-t-il...
Alors, du dénigrement sur les supports publicitaires, non, à proprement parler, non. Après, quand on analyse leur site internet, il y a un questionnement, notamment sur toute la partie aide pédagogique et support qu'ils proposent aux parents sur leurs intranets. Il est question des dédales et des circonvolutions de l'éducation nationale dans lesquelles il est difficile de se retrouver et comment ils peuvent aider les familles à s'y retrouver.
Et ils ont une conception particulière de l'enseignement, ces sociétés, ou ils vous laissent un peu, toi qui adore la pédagogie, gérer à ta façon la pédagogie ou...
Alors bien sûr, ils ont une conception particulière. Ils ont une position qui est celle en fait de ce que j'appelle de l'évaluation en permanence, c'est-à-dire... On apprend en vue d'atteindre un niveau et non en vue d'atteindre un épanouissement ou des capacités cérébrales, cognitives qui questionnent le monde.
Et c'est évalué par les élèves, les familles, ou c'est évalué juste par un résultat objectif. Je ne sais pas si c'est objectif, mais...
Alors, résultat objectif, c'est celui qui est donné ensuite à l'école, puisque c'est là-dessus qu'ils évaluent les professeurs particuliers, c'est là-dessus qu'ils évaluent l'avancement des élèves. Donc ensuite, c'est les progrès que fait l'élève au sein même de son système scolaire de base.
Et comment ils recrutent les professeurs ? Parce qu'on a toujours l'image des étudiants ou des professeurs qui ont été profs dans l'éducationnel et qui sont après retraités. Il y a un mode de recrutement particulier de ces sociétés
Alors, la modalité du recrutement, elle est assez simple, puisque c'est avant tout les candidats qui viennent à eux. Sur les profils des professeurs particuliers, on a avant tout des étudiants qui sont issus, la plupart du temps, de filières eux-mêmes d'excellence, si on peut parler dans cette terminologie-là. Mais on a également des professeurs certifiés, des gens qui ont le CAPES, qui sont professeurs particuliers. On a également des professeurs retraités, ce qui est un peu plus rare. Et tous ces gens façonnent le pool d'enseignants particuliers.
Et il y a un examen, il y a un oral, quelque chose ou pas du tout ?
Alors dans la procédure de recrutement, il y a effectivement différentes étapes que doivent franchir les aspirants professeurs particuliers. Le premier est celui du test, évaluation de connaissances. C'est ce que je décris notamment... Pendant assez longtemps dans le mémoire. Et le second temps, c'est un entretien de personnalité. Alors là, l'entretien de personnalité, ce que je décris, notamment dans l'une des sociétés, est assez drôle, puisque la personne qui est chargée d'évaluer le professeur particulier que j'incarnais à ce moment-là n'a pas forcément les connaissances pour juger de l'adéquation ou non de la personne par rapport aux compétences demandées. C'est l'exemple de « Savez-vous parler allemand ?» alors que l'évaluateur ne sait absolument pas parler allemand, ou du coup, l'aspirante professeur que j'étais répond correctement, mais avec l'évaluateur qui est incapable de
vérifier si c'est correct.
Exactement.
Et donc forcément, parce que toi, tu as fait quand même, tu as donné des cours multiples et variés. Tu disais que tu faisais du marketing, du français, de l'allemand. Donc effectivement, ce n'est pas aussi spécialisé et aussi excellent que ce qu'ils veulent dire dans leur pub, d'une certaine façon.
Alors après...
Tu es en train de mettre en cause la maîtrise de ses compétences comme professeur.
Pas du tout, on peut être omniscient, hein, mais... Alors justement, bon, là, on voit que c'est le professeur, une fois qu'il est rentré, donc il a passé tous ses examens, il est face aux clients qui sont des familles. Après, les familles le paient directement ou passent par la société de cours particuliers ?
Alors justement, c'est... Là... Le système d'intermédiation qui rentre à l'œuvre, les familles rémunèrent les intervenants par un système de coupons. Le système de coupons, en fait, permet aux sociétés d'avoir prise justement sur la rémunération, à savoir que 15% de la rémunération octroyée par les familles aux sociétés revient aux professeurs particuliers. Donc, il n'y a pas de transaction monétaire directe. Il n'y a pas d'argent fiduciaire qui circule de la famille à l'intervenant. Tout ceci étant chapeauté par la société qui intervient justement par ce coupon. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la dynamique du système goffmanien dans la sociologie interactionniste pour montrer justement que dans la présentation de soi et des éléments objectivés, il y a une circulation non monétaire qui est à l'œuvre pour que l'illusio de la société soit toujours présente. C'est-à-dire que par le truchement de ce coupon, s'insère la société.
Oui.
Sinon, elle n'est jamais présente, sinon au début et à la fin de l'année scolaire.
Et il n'y aurait pas parfois la volonté de
court-circuiter
la chose et de devenir soi-même son propre boss
Alors l'une des intervenantes que j'ai interviewée, parce que j'ai choisi d'objectiver ma position, ne vous souhaitant pas justement simplement me dire ma parole et mon expérience, vos paroles d'évangile ou expérience... faisant loi. Donc j'ai cherché à faire des entretiens avec des personnes qui étaient elles-mêmes professeurs particuliers, et l'une des personnes m'a expliqué qu'effectivement, au bout d'un certain moment, elle est passée en deal, en direct avec les familles, par le truchement du CESU, qui est le chèque emploi-service, qui met à l'œuvre en fait les mêmes mécanismes
par les mêmes avantages fiscaux.
Et les mêmes avantages fiscaux que les familles souscrivent en souscrivant avec une société de placement particulier.
Et une autre chose, quand tu es professeur, tu vends tes heures finalement, tu es un peu commercial.
Tout à fait. C'est la notion qui est assez particulière, c'est qu'à la fin de chaque trimestre, la société de cours particuliers enjoint ses professeurs à faire de l'évaluation des élèves, mais aussi pour détecter, ce qu'ils appellent détecter les élèves qui auraient besoin d'autres cours. Donc comment en fait les sociétés embarquent d'une certaine façon, une contrainte qui ne se perçoit pas, qui ne présente pas comme telle, à vendre de nouveaux cours par les professeurs particuliers, par le truchement de l'évaluation.
Parce que finalement, il y a des cours particuliers qui sont pendant toute l'année scolaire, on pourrait dire, je ne sais pas, le jeudi à 18h, mais il y a aussi tous les cours pendant les vacances. Il doit y avoir des cours de méthodologie. Il y a ces sociétés présentent plein de possibilités.
Tout à fait. Le temps des vacances est mis à profit beaucoup par les familles pour exploiter ou mettre en œuvre des savoirs, des compétences, des façons de travailler pour le cours particulier.
Et d'un point de vue contractuel, on est lié à une seule société ou il est possible de faire un peu...
Alors officiellement, les contrats stipulent qu'on doit être attaché au service d'une seule société. Après, dans la pratique, de nombreux professeurs particuliers sont attachés à différentes sociétés.
Et moi, j'avais une question sur la différence entre ces cours particuliers-là qui passent par des sociétés et les cours particuliers où c'est juste sans intermédiaire, en fait. Qu'est-ce qui fait que les familles choisissent d'avoir recours à ces sociétés plutôt que, par exemple, tu vois, téléphoner, j'en sais rien, à HEC. À HEC, il y a des élèves, il y a des étudiants qui proposent des cours particuliers. Donc, tu peux facilement quand même trouver des étudiants profs qui sont dans ces filières d'excellence et qui vont venir te donner des cours particuliers sans passer par la société intermédiaire.
Le côté pratique, à savoir un coup de fil à passer à une société qui va pouvoir aussi remplacer le professeur particulier s'il décide de partir. C'était notamment l'une des familles avec lesquelles j'avais travaillé il y a 4 ans qui m'expliquait qu'il préférait procéder ainsi puisqu'il y avait un turnover qui était très important chez les professeurs particuliers. Que du coup, rappeler la société leur permettait d'accéder rapidement à un nouvel intervenant.
Et c'est pareil pour les professeurs. Ça leur permet, le fait de passer par la société, parce qu'ils y perdent financièrement, ça leur permet d'avoir toujours en fait, des clients.
Exactement. C'est ça.
La vie, comment on la savoure ? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait « Sois érudit », l'autre chuchotait « Remplis ton caddie ».
Comment choisir entre les deux approches ? L'une disait « Remplis ta tête », l'autre « Tes poches ». Entre les deux difficultés, aucune chez moi n'a fait l'unanimité.
À n'appartenir à personne, tu meurs. À trop entendre, sors de ma demeure. À pas répondre ni merde, ni s'il te plaît. T'as manqué, tout s'est dépeuplé.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
La vie, comment on la savoure? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. Sans jamais s'octroyer demi-temps, elle se tirait dessus à bout portant.
Comment faire le compromis, dire à l'une et à l'autre c'est promis. Avancer sans qu'elle se fâche, à l'oreille une fleur, à la taille une hache.
Oui, fallait être malin, pour apporter de l'eau de moulin. Avec leurs ailes qui avaient tout démoli, en voyant la rivière changer de lit.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Comment échapper aux deux maîtres? L'un disait du chiffre et l'autre des lettres. Comment déchiffrer le hiéroglyphe quand on n'est ni Champollion ni le calife?
Quand l'un dit pardonne et l'autre venge-toi, et tout ça sous le même toit. À pas vouloir choisir entre les deux édifices, t'es pour l'un et pour l'autre commis d'office.
À vouloir être pote avec les deux, l'un et l'autre te traitent de merdeux. Et tu meurs bouche ouverte dans les flaques, avec un réquiem, dormez-vous frère Jacques.
Frère Jacques, dormez-vous? qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Ballotté, tu finis comme un de ces spécimens qui dit non merci à la race humaine. Et pour pas être victime d'une horte-feu, un beau jour c'est toi le premier qui fait feu. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. 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 À la vie, à la mort.
Ouais, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'était Zebda avec les deux écoles.
Et on est toujours dans les oreilles loin du front avec Sarah Dulaurier pour parler de la course à l'excellence, stratégie scolaire des familles aisées, le recours aux sociétés privées de cours particuliers. Et on est en plateau avec Blanc, Juliette et donc Sarah.
Alors tout à l'heure, tu nous racontais l'histoire de ces familles et comment tu avais été professeur. Et on parlait beaucoup des enfants. Mais il y a aussi la question des profs. Qui sont les profs qui donnent des cours particuliers?
Étudiants, professeurs certifiés et professeurs à la retraite. Alors, ça fait un panel assez important. Avant tout, des étudiants. Avant tout, des étudiants plutôt très bien diplômés. HEC, EHESS, Sciences Po. C'est à ça, avant tout, que recherchent les sociétés de placement.
Et j'imagine que plus on est diplômé, plus on va dans des familles aisées et plus on est payé, finalement.
Oui, d'une certaine façon. Mais dans les catégories des sociétés de placement, il y a aussi différentes franges. Les sociétés que j'ai pu étudier sont les franges mainstream. Il y a d'autres sociétés de placement qui, elles, touchent des publics beaucoup plus hauts, qui ont d'autres noms, qui ont d'autres cibles, et qui, elles, recrutent exclusivement à l'ENS, recrutent exclusivement à Polytechnique, et ont déjà leurs propres canaux d'irrigation des étudiants d'excellence qui souhaitent recruter pour être professeur particulier.
Donc il y a peut-être un système de cooptation finalement et de reproduction, puisque c'est peut-être des jeunes aussi qui viennent de ces milieux-là, non?
Pas toujours, puisque le système public français permet encore à pas mal de gens d'accéder à ces écoles d'élite. Alors à contester, j'imagine, par beaucoup de gens sur la notion de pas mal, mais elle est a priori. En tout cas, certains de pouvoir accéder encore, ne venant pas de franges aisées.
Et alors là, c'est encore plus paradoxal, puisque justement, on est dans des grandes écoles publiques qui viennent alimenter un système de cours particuliers privés, alors que bon, HEC, t'es étudiant à HEC et que tu vas donner des cours particuliers, tu restes dans une vision quand même assez commerciale de l'éducation, quoi. Enfin, c'était juste, c'était pas une question.
C'était la réflexion sur la façon
dont... Ma propre réflexion.
L'éducation est privatisée d'une certaine façon par tout ce système de cours particuliers.
D'une certaine façon. Après, la question de... La porosité entre le public et le privé est une véritable question qui est au cœur du travail que j'ai rédigé, puisque si on prend le sujet sous l'acceptation de l'économie, les deux sphères s'interpénètrent en permanence. Il y a une circulation monétaire entre les deux. Après, il y a un choix, en tout cas, qui a été opéré par l'État, de pouvoir permettre justement à ces sociétés-là de favoriser les familles aisées par le truchement des réductions fiscales. Et notamment, cette levée de ce bouclier a été opérée au début des années 90, alors même que Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie, et c'est lui qui a fait lever le verrou avec ses équipes pour que certaines sociétés, puissent accéder justement à cet abattement fiscal, et pérennisé par Borloo en 2005 sur son plan de modernisation de l'économie.
Est-ce que on peut voir l'évolution, parce que on a l'impression qu'il y a un boom de ces sociétés-là parce qu'elles n'existaient pas avant. Est-ce que plus il y a la crise, plus les gens font appel à ce genre de sociétés?
Exactement, exactement. Et là, il faut mettre vraiment notre modèle français en comparaison avec le modèle nord-coréen et le modèle japonais.
Nord-coréen ?
Non, pardon, sud-coréen.
Ensuite,
Non. En Corée du Sud, c'est déjà une mode très très importante que celle du cours particulier, avec une injonction à l'excellence pour tous.
Alors là, tout à l'heure, tu racontais l'anecdote de Madame Hui. Mais est-ce que les élèves aussi participaient, par exemple, à des stages linguistiques ? Il y avait tout un, on va dire, un modèle de construction de l'excellence ?
La famille Préval, que je décris dans le mémoire, est exactement sur cette tendance. À savoir, l'été est consacré pour les enfants à partir dans des vacances en Angleterre, où ils apprennent le cricket, où ils apprennent à se comporter dans la haute société anglaise. On a également la famille Alphon qui envoie ses fils aux États-Unis apprendre le baseball et l'American Way of Life.
Et alors, quand on est professeur et qu'on arrive dans ces familles, est-ce qu'il y a un comportement à avoir ? Est-ce que la société qui t'emploie te forme finalement ? Ou est-ce que tu es libre de faire ce que tu veux ?
Alors,
est-ce qu'on fait la bise à Madame Hui et Madame Préval ?
Ou le baise-main, tu veux dire ?
Je ne sais pas.
Alors, les sociétés ne nous forment pas aux techniques de comportement, si on peut les appeler comme ça. Et non, après, on ne fait pas la bise à Madame Hui ni à Madame Préval, de la même façon qu'on ne fait pas la bise à un employeur quand on le rencontre pour la première fois.
Oh, les jeunes stagiaires, ils font souvent la bise. Il y a un problème. Tout le monde ne connaît pas les us et coutumes des uns et des autres.
Alors,
c'est aussi une forme d'éducation et une forme...
Bien sûr. Alors, il y a une distance, bien évidemment, à respecter. Mais plus, ce qui est plus intéressant dans leurs us et coutumes, c'est la façon dont ils se projettent dans leurs enfants, et notamment par la notion du mariage. Le petit Louis, dont je parle à un moment donné dans le mémoire, est un enfant qui a 2 ans et demi d'avance.
Il a quel âge, ce petit Louis ?
Il a 14 ans.
Et il rentre en terminale.
Il rentre en classe de première, sauf qu'il est en décrochage parce qu'il n'en peut plus. Donc cette année-là, sa maman a décidé de lui permettre de pouvoir redoubler avec beaucoup de difficultés. Et au moment où je pars, un soir, sa maman me dit qu'elle est très très soucieuse pour lui, 2 ans et demi d'avance scolaire, et me dit si ça avait été une... Je ne sais vraiment pas quoi en faire. Le plus grand, c'est bon, il veut faire médecine, il est sur la route. Mais Louis, je ne sais pas quoi en faire. Si ça avait été une fille, je l'aurais mariée.
2013, bonjour.
Et d'ailleurs, là, puisque tu parles de la différence entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on fait plus de pression sur les garçons de ces familles où il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes élèves ?
Oh là, ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. On va nous ressortir la théorie de gender. Attention.
Je me tais. Mais...
Je dirais qu'il y a plus de pression sur les filles. Mais elle n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a une injonction, y compris dans les corps, pour les filles, à se tenir. Donc la pression, elle est aussi scolaire, mais aussi à se préparer à rentrer dans des milieux sociaux où elles devront être mères, épouses et travailleuses. Donc la pression, elle est tout aussi forte, mais elle s'organise de façon peut-être plus complète chez les filles que chez les garçons.
Et là, quand on parle des différences... Hommes-femmes, est-ce qu'il y a des différences aussi de pression en fonction des âges des élèves ? Ou est-ce que tu as vu à peu près le même rapport au professeur ?
Plus on se rapproche du bac, plus la pression est forte. Puisque c'est à ce moment-là qu'ils constituent les dossiers pour les classes prépa, qu'ils commencent à préparer les concours. Donc le moment du bac cristallise énormément de tensions. Le moment de la sortie du système secondaire... est très, très, très tensiogène.
D'ailleurs, il y avait une des sociétés de cours particuliers qui avait un slogan, c'est « bachelier ou remboursé ». Donc, en même temps, il y a 90% de bacheliers. Donc.
Non, mais là, ce que tu dis, Sarah, c'est que c'est pas tant le bac en tant que tel, c'est la sortie. Parce que le bac, il s'angoisse plutôt sur la mention, mais pas trop sur le fait d'avoir le bac, je pense.
C'est vrai.
Et puis après, sur ce qu'on va faire après de ses enfants.
Ils s'angoissent sur la mention, sachant qu'ils ont déjà... prévu que ce serait bien ou très bien, et ils ont les dossiers scolaires pour se dire que ce sera bon. Mais c'est évidemment la question de après. Mais cette notion de après, elle est déjà organisée depuis le collège. Et c'est ça que j'ai vraiment essayé de montrer, c'est que cette scansion du temps où il y a peu de temps laissé à la vacance, elle est organisée pour pouvoir intégrer, après le bac, toutes ces classes prépa et ces grandes écoles.
Et durant ces ces classes prépa et ces grandes écoles, ces jeunes sont aussi suivis par des cours particuliers ou il y a un moment où on leur laisse, ils commencent à gérer eux-mêmes leur travail?
Je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas suivi au-delà du bac. Ceux qui rentrent en classe préparatoire du système public, ça m'étonnerait qu'ils aient des cours particuliers parce que le temps est déjà suffisamment bien organisé. Et pour après... c'est assez rare, je pense.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle de plein de cours particuliers comme ça, mais j'imagine que la plupart des professeurs donnent des cours de mathématiques, puisque c'est un peu la matière qui est...
Noble.
Noble par rapport aux sciences sociales, aux français. Est-il des différences entre les professeurs, par exemple, en fonction des cours qu'ils donnent ?
Alors effectivement, la demande la plus forte sur les cours particuliers, elle est sur les mathématiques. Donc forcément, il y a plus de professeurs de mathématiques puisque c'est là la demande. Les professeurs de mathématiques ne sont pas différents des autres professeurs particuliers. Notamment dans le mémoire, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les professeurs de mathématiques ont peut-être plus de facilité à donner des cours à l'extérieur puisqu'il y a une connotation... peut-être moins sociale de leur métier, plus effective. Et donc, du coup, l'un d'entre eux, effectivement, donne des cours de mathématiques dans plusieurs instituts à l'extérieur de son établissement.
Donc, il y a la possibilité, comme ça, de donner des cours un peu partout, finalement, quand on est prof de maths. C'est un peu le sésame pour réussir aussi les maths.
Alors, pour ces filières d'excellence, oui. Pour ces filières d'excellence, c'est bien sûr les mathématiques qui sont valorisées.
Et alors, ce qui est quand même, j'imagine, en tant que professeur, toi qui as été prof de français, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait une différence dans la façon dont les parents, mais alors ça c'est un peu difficile, mais je pense que tu as fait peut-être une enquête sur le sujet, variaient leurs réflexions en fonction des professeurs, si c'était des profs de maths ou de français? Est-ce qu'il y a le même rapport et la même pression en fonction des matières?
Il y a une pression qui est bien plus forte sur les matières scientifiques, ça c'est évident. Après, sur les matières plus littéraires, les domaines de l'esprit, il y a une très forte demande, puisque sur les filières type Sciences Po et type également Polytechnique, même si c'est moins important, une demande de culture générale. Et donc toutes les disciplines du domaine de l'esprit, le français et la philosophie en faisant partie, sont très très valorisées.
Donc tout ça, c'est quand même un peu vraiment la compétition des élèves pour une sorte de privatisation de l'éducation nationale qui est en train de se faire petit à petit.
C'est des territoires qui cohabitent les uns avec les autres, mais d'une certaine façon, on peut parler de privatisation si et seulement si on ne voit pas aussi comment il y a un manque de moyens qui est alloué aux professeurs dans les établissements publics, y compris privés, pour exercer leur métier.
Et quand on parle comme ça de privatisation, de personnalisation, après, tu as gardé contact avec ces élèves ou ça reste vraiment du côté professionnel? C'est mon élève, j'ai donné des cours de philo et on ne va pas aller plus loin.
Alors moi, je me suis toujours enquis de savoir ce qui se passait pour eux, notamment pour ceux qui passaient les bacs, et un an après pour voir où ils en étaient. Mais sinon, non, pas de pérennité dans le lien. Et dans l'un des entretiens que j'ai effectué avec un professeur particulier, lui, il exprimait une certaine déception de ne pas pouvoir suivre ses élèves au-delà du cours particulier.
Parce qu'une certaine aussi, le fait qu'il y ait une médiation par une société, j'imagine que ça crée une distance.
Oui et non. La distance, elle est surtout celle que veut imprimer le professeur particulier, puisque les sociétés sont très très peu présentes dans le contenu même du cours, qui est façonné par le professeur particulier, qui est préparé par lui. La présence de la société, elle s'exprime par le coupon dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle s'exprime par l'organisation du cadre.
Mais ça coûte combien alors, finalement, concrètement ?
Entre 30 et 50 euros de l'heure pour les familles. Et sur ces 30 et 50 euros, 12 euros reviennent aux professeurs particuliers.
Ah oui, effectivement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose.
C'est pas très rentable quand même.
Quand on a fait HEC ou quand on est à Polytechnique, si on donne des cours par ces sociétés-là, finalement, on est un prolétaire de l'éducation.
Eh ben oui, il vaut mieux se décarcasser pour trouver soi-même ses familles, non ? Et monnayer cash les 40 euros, quoi, de l'heure.
Et finalement, ces familles... aisés, comme tu nous racontais tout à l'heure dans le 16e, passent par ces sociétés. Quoi.
Certaines d'entre elles, oui.
Et est-ce que ça arrive que ce soit les familles qui proposent aux professeurs particuliers de contourner le système des intermédiaires ?
J'ai jamais entendu parler de ça dans toute l'enquête que j'ai pu façonner.
Après, je pense que tout ce qui est lié à la défiscalisation fait aussi que c'est beaucoup plus encadré aujourd'hui. On fait beaucoup moins travailler les étudiants de la poche à la poche, comme il y a eu à une époque, parce qu'aujourd'hui, ben, l'air de rien, le fait que ce soit défiscalisé, c'est aussi un avantage pour ces familles-là.
Exactement, parce que sur les 30 et 50 euros, sur ce barème-là, il y a 50% qui est défiscalisé, donc l'heure de cours revient entre 15 et 25 euros à la famille.
Quasi rien, finalement. Et sur un budget annuel, puisqu'on parle argent depuis tout à l'heure, ça correspond à quoi exactement quand on veut faire réussir son enfant pour rentrer dans une grande école ?
Calcul mental.
Parce que je crois que dans ton mémoire, tu racontais qu'il y avait une de tes enquêtées qui disait bah, « Moi, je mets 2000 euros par an, je pense que c'est le prix de sa réussite » ou quelque chose comme ça.
Alors ça devait être les frais de scolarité de l'établissement privé où sa fille était inscrite. Alors effectivement, il y a ces familles qui ont choisi de mettre leurs enfants dans le privé, donc qui consentent tous les mois à une dépense. Et puis après, il y a les cours particuliers, là, il y a les activités culturelles. Et tout ce qui va autour pour façonner les dispositions à même de voir ses enfants intégrer les sphères sociales des dominants.
Alors là, tu étais professeur particulier, tu as fait ton mémoire. Et aujourd'hui, tu continues dans ce domaine-là ou...
Alors, je continue dans la pédagogie, mais dans la formation professionnelle avant tout. Et dans les arts, puisque je suis aussi professeur de théâtre à côté.
Donc tu as fini avec les enfants, maintenant tu passes aux parents et dans les entreprises ?
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans nos studios à Fréquence Paris Pluriel. Donc on rappelle que tu as écrit un mémoire qui s'appelle « La course à l'excellence, stratégie scolaire des familles aisées, le recours aux sociétés privées de cours particuliers ». Donc c'était Sarah Dulaurier, peut-être qu'on te recevra pour parler des formations d'entreprise ou je ne sais quoi, parce que c'est assez intéressant. Bon, ça n'a rien à voir, mais il n'y a pas longtemps, j'ai feuilleté mon petit guide des formations en entreprise et il y avait une superbe formation qui s'appelait « Être chef même de dos ». Et je m'imagine que tout était possible. Hein, donc je pense qu'il y a aussi un marché dans ce domaine-là, après le marché des cours particuliers, le marché des formations en entreprise. Et puis alors, avec les oreilles loin du front, on continuera un peu à traiter de ce même sujet dans 3 semaines, avec Muriel Darmon, qui est sociologue et qui a écrit un bouquin sur les classes préparatoires, puisque tout à l'heure, tu parlais de la pression pour entrer dans des bonnes classes préparatoires. On verra avec elle, qui vient de publier un bouquin aux éditions La Découverte, « Classes préparatoires, la fabrique d'une jeunesse dominante », comment fonctionnent ces classes préparatoires. Et puis d'ici là, vous pourrez retrouver incessamment sous peu nos archives dans notre site internet.